Après les trois coups, le rideau s'ouvre. Les comédiens sont là, tapis dans l'ombre. Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Rencontre avec un auteur, extrait de pièces, interview, clin d'œil de la comtesse Rostropovitch, actualité de la scène nantaise. Anna vous entraîne chaque deuxième samedi du mois, de 12h à 13h dans les coulisses des théâtres d'ici et d'ailleurs, sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Bonjour, on est ensemble pendant une heure dans Tous en scène, l'émission de Prune sur l'histoire du théâtre. Tous en scène, c'est une heure pour découvrir un dramaturge phare de l'histoire du théâtre à travers l'une de ses pièces. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Karine Serre et sa pièce « Chambre froide ». Tous en scène, ce sont trois rubriques encadrant la pièce choisie. Pour débuter l'émission, un survol biographique de Karine Serre, suivi de la lecture de quelques pages de sa pièce « Chambre froide ». Puis aujourd'hui, une interview de Catherine Lemoulec, professeure de lettres classiques, formatrice de pratiques théâtrales en milieu scolaire auprès des enseignants et enseignantes et metteuse en scène de la compagnie du Théâtre Pomme, dont elle a été la cofondatrice en 1993. Ensuite, une chronique légèrement décalée à travers le clin d'œil de la comtesse Rostropovitch scande la pièce choisie. Enfin, une ouverture sur l'actualité de la scène nantaise permet de terminer cette parenthèse théâtrale du deuxième samedi de chaque mois de 12h à 13h. Tous en scène, c'est donc parti avec, comme première rubrique, l'éclairage biographique.
Éclairage biographique dans Tous en scène sur Prune 92 FM en compagnie d'Anna.
Karine Serre est née en 1967. Auteure de théâtre, elle a une soixantaine de pièces à son actif. Elle écrit également des romans, des contes, des pièces radiophoniques et des feuilletons. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi illustratrice, traductrice, scénographe et metteuse en scène de théâtre. En un mot, elle n'arrête pas. Son site karinserre.com, karinserre.com, est une mine d'informations où notamment vous apprendrez que la pièce « Bagarre » qui parle, je cite Karine Serre, de « l'intense et joyeux plaisir de la bagarre dans tous les sens, pour tous et toutes, quels que soient nos âges, et dont notre invitée de ce mois, Catherine Lemoulec, vous lit un passage en fin d'émission, fait écho à la petite forme satellite nommée Titus, pour reprendre les propos tenus par la créatrice, dernière création en date. Sur ce même site, vous trouverez 21 chapitres d'un conte intitulé « À rester à la maison », écrit pendant la période du premier confinement de mars à mai dernier. Cette rêverie évoque de façon très poétique ce que nous avons tous et toutes vécu il y a déjà presque un an. Karine Serre nous fait voyager ainsi et redécouvrir la nature qui nous entoure. Le temps d'un instant, nous sommes ces « ils » et ces « elles » au pluriel qui voyagent au gré des rencontres de la nature sous toutes ses formes pour retrouver à l'issue de ce long périple les habitants de la grande ville. Mais revenons à quelques-unes de ses créations théâtrales. En 2008, elle écrit « Embouteillage », texte créé à la ferme du Buisson et au Festival d'Avignon. Les personnages sont à bord de leur véhicule et les spectateurs sont amenés à prendre place à l'arrière de la voiture, ce qui crée, vous vous en doutez, une atmosphère particulière. Le spectateur se retrouve ainsi le témoin direct d'une histoire dans laquelle il a le sentiment d'entrer par effraction, tel une sorte de voyeur. En 2010, sa pièce « Mongol » nous entraîne dans l'univers de Ludovic, jeune enfant traité de Mongol par l'un de ses camarades de classe qui se met à étudier tout ce qui a attrait à la Mongolie et qui adopte également au quotidien les mœurs de ce pays face à ses parents sidérés dans un premier temps par le changement d'attitude de leur fils et qui finissent par l'accompagner dans sa rêverie. Douce balade qui nous fait du bien et qui nous réconcilie avec le monde des grands. Entre 2010 et 2013, Karine Serre entreprend l'écriture de Tag, série théâtrale rock en 3 épisodes, dans laquelle il est question de réparation familiale et de protection. Ainsi, en allant chercher dans les souvenirs enfouis, on fait ressurgir ce qui nous a blessés. Les Tags, tels des palimpsestes, permettent de réécrire l'histoire de cette famille. C'est l'occasion de se réinterroger, d'interroger le monde et de montrer la force de notre psychisme qui peut enfouir à tout jamais les traumatismes de l'enfance. Giuseppe Ensam, l'enfant devenu lieutenant de police à la brigade criminelle, enquête sur sa propre existence. Voilà en quelques illustrations qui vous donnent le « là » de l'univers très particulier de Karine Serre que l'on pourrait résumer ainsi. Je contemple le monde et si cela s'avère trop compliqué, je me réfugie dans une quête introspective qui m'apporte rêve et réconfort, quoi qu'il advienne. Merci, Karine Serre, de nous offrir ce refuge dans ce monde perdu de notre enfance qui nous manque.
Voici venu le temps de la pièce choisie sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, en compagnie d'Anna pour l'émission « Tous en scène ».
J'ai choisi de vous parler de la pièce radiophonique « Chambre froide » créée sur France Culture par Cécile de France, dirigée par Myron Merson le 14 février 2004, Tragique Saint-Valentin. Ce long monologue retrace la lente agonie d'une caissière enfermée par inadvertance un samedi après-midi dans la chambre froide du supermarché dans lequel elle travaille, alors qu'elle s'y était cachée pour une pause cigarette, loin du regard de son supérieur, Monsieur Jackie, comme elle se plaît à le nommer. En voici un petit extrait. Commence à plus vraiment me faire rigoler. D'ici qu'ils se rendent pas compte que je suis pas revenue à ma caisse, d'ici ce que Monsieur Jackie ait pensé que je me suis tirée et qu'il m'ait remplacée sans chercher à... Pas dans la merde, moi. Combien de temps on peut tenir dans une chambre froide sans finir gelée? Toute une nuit? Félix, dans le bac à légumes du frigo, raide, figé au petit-déj. Un chat, c'est pas comme un humain, ça tient rien. C'est si rapide, la fin d'un monde. Ah non, non, pas se laisser aller à la déprime. Des pensées positives, toujours, il faut positiver. Allez. Quel bonheur. Le soleil est enfin couché. La ténèbre, enfin. La ténèbre des si longs mois d'hiver pour nous raconter nos histoires et nos rêves, et nous offrir de la viande gelée à mâcher et des litres de vieux marcs de café passés et repassés. Hein? Je continue? Dans le silence chuintant, nos hommes aux pieds d'ours glissent délicatement sur la glace. Lentement, lentement, gris, imperceptible, gris jusqu'au trou d'eau limpide où d'un coup d'épieu rapide, tchac, il transperce la nuque des phoques avides d'air. Avant la neige, avant la première neige, sans un bruit, juste les derniers petits cris des phoques encore en vie, leur petit « quick ». Non, ça, je pourrais pas supporter. Un ours polaire, alors ? 800 kilos de barbac et sa fourrure, le rêve, quoique ça pue sévère. L'an dernier, à la sortie du cirque, quand on les a croisés, vous vous rappelez? Et un morse, plus de 1500 kilos, je crois. Sauf que, comment ça se pêche, ces trucs-là? À la mouche? Pas de canne à pêche sur moi. Trop bête. Ou alors, oui, je viens de le dire, trou dans la glace. Aïe, ça brûle. Que dalle, oui. Si ça se trouve, c'est même pas de la vraie glace. C'est du synthétique, comme ma sandale, là, infondable. Bon, ça caille. Action, action. Personne n'a un appareil photo? Non, mais un petit, un jetable. Dommage. Les journaux à catastrophe nous auraient fait un pont d'or pour l'exclusivité. 60 000 balles pour trois. 20 000 balles chacun. Qu'est-ce que vous feriez de tout ça, vous? Moi, je m'achèterais... Et un portable. Non. Moi, évidemment pas. Tu quittes ta caisse avec ton portable, Monsieur Jackie t'appelle et paf! Localisé, viré. Sans passer par la case départ et sans prendre les 10 000 francs. Euros. 10 000 euros. Vache, ça fait un paquet. Non, attends. Ça ferait. Arrêtez, maintenant, hein, ça suffit. Arrêtez vos conneries. Je vais nous sortir de là, moi. Mais faut que vous me laissiez me concentrer. Je vais sûrement trouver dans mes poches de quoi bricoler un genre de clé. Une clé pour ouvrir la porte blindée. Faut tout vous expliquer. Oui, je sais, vous êtes que des pieds. On dit bien bête comme ses pieds. Quoi ? Je vous ai vexé ? Oh, ça va, hein. Je le pensais pas. Mais non. Heureusement que vous êtes là. Au moins, j'ai quelqu'un à qui parler. Deux quelqu'un. Oui. Un quelque deux. Maintenant, silence. Oh, une clé. Ou bien un levier. Un levier aussi, ça peut marcher. Je le glisse dans la charnière et hop. Ou bien le faire exploser. Mais ça, je sais pas si j'ai... Oh, poussez-vous. De l'air. Tant, 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 tant. Nul. Il n'y a que dalle dans ses poches. Bon, allez, on reste pas comme ça sans rien faire, accablé. On se secoue, on y va. Où ça? Chasser le pingolo, gros malin. Le petit pingouin bien tendre. Et plus loin, c'est ainsi que le texte s'achève. Pas quelqu'un? Froid. Toute seule. Fermée. Comme conne. La porte. Faute à la porte. 3 tonnes. Même pas. Poignée. Froid. Pied, là, le sens pas. Bout de bois. Ripé. Froid. Froid. Pas. N'arrive là. Sur Queen. Sieur Jackie. Moi. Pli vous plaît. Sans carrette. Brune punie, là, fait froid. Pardon, maman, papa, monsieur, Jean.
Enfin, un peu de pluralité avec ces voix nouvelles que nous réserve l'interview. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et on DAP Plus sur Saint-Nazaire en compagnie d'Anna pour l'émission Tous en scène.
Aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews du mois, nous recevons Catherine Lemoulec, professeure de lettres classiques, formatrice de pratique théâtrale en milieu scolaire auprès des enseignants et metteurs en scène de la compagnie du Théâtre Pomme, dont elle a été la cofondatrice en 1993. Bonjour Catherine.
Bonjour Anna.
Alors Catherine, votre carrière de professeur de lettres classiques va de pair avec votre carrière en tant que passeur de théâtre. En effet, vos choix professionnels se sont nourris d'une double formation, à la fois à l'Université de Nantes et, dans le même temps, au cours de théâtre du Studio Théâtre à Nantes, alors dirigé par Philippe Le Naël, qui est à l'origine du Printemps des Arts dans notre région. Pourquoi avoir fait ce double choix de formation et en quoi ces deux horizons se sont-ils tissés l'un l'autre au cours de votre carrière?
Alors la réponse au pourquoi, je pense qu'elle est très, très claire. En fait, je crois que j'ai toujours aimé le spectacle vivant. En fait, petite, je me suis toujours mise en scène, j'ai mis en scène mes cousins, mes cousines, dans des petits spectacles, on va dire, entre guillemets, de variété, comme ça s'appelait dans la campagne où je vivais, où il y avait des séances de variété tous les ans, et il y avait un petit peu de théâtre, un peu de musique, un peu de magie, un peu de cirque, etc. Donc ça m'a toujours plu. Et en même temps, je crois que c'est le domaine des lettres, la lecture, les livres, ça m'a aussi passionnée. Dans le milieu où je vivais, dans ma famille, il n'était pas question de faire un parcours artistique professionnel. Donc c'est vrai que ça m'a guidée, on va dire, petit exemple, j'ai choisi, quand j'étais à l'université, plutôt des unités qui étaient autour de, des auteurs de théâtre, Ionesco, par exemple. Et les fils de ces deux intérêts se sont toujours croisés, en fait, depuis longtemps. Et puis après, il y a une question de, enfin, je ne sais pas, d'époque, de hasard, qui ont fait que, au fur et à mesure de mes études, j'ai eu un grand besoin de liberté, d'aller voir ailleurs. Alors, par exemple, je me suis inscrite au Cité Théâtre de Philippe Hénaël. En arrivant, j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène. J'aime le théâtre, j'aime le texte du théâtre, mais je pense que ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on passe du texte écrit, que j'avais étudié en tant que littéraire, au texte sur scène. Et là, Philippe m'a dit tout de suite, avant d'être metteur en scène, peut-être que tu essayes d'être comédienne. Et voilà, j'ai commencé à suivre des cours, ça m'a tout de suite passionnée. J'ai aimé me retrouver avec d'autres, j'ai aimé être sur scène, j'ai aimé diriger les autres, faire du jeu d'acteur. Et ensuite, il y a eu un moment où, à la suite d'un stage de théâtre que j'ai fait avec l'équipe du Théâtre du Galion, j'ai rencontré une comédienne professionnelle qui s'appelait Colette Bossy, qui était à l'époque comédienne au Galion et qui voulait créer une compagnie. Elle était plus âgée que moi. Et donc, elle m'a demandé si j'étais prête à faire cette compagnie avec elle, à créer cette compagnie avec elle. Et à l'époque, j'étais rendue à un moment de ma vie où j'étais capable de prendre mes décisions. J'étais jeune adulte, je pouvais prendre mes décisions. Et j'ai dit, ça y est, banco, on se paye à cela. En sachant tout ce que ça voulait dire au niveau de la sécurité professionnelle, hein, de créer une compagnie, etc. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, les chemins entre ces deux passions, parce que j'aime beaucoup enseigner, j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé être avec des groupes, des classes d'élèves, et le théâtre sont toujours croisés tout au fil de ma vie. Et pour une très grande richesse. C'est-à-dire que les deux parcours n'ont eu de cesse de s'enrichir l'un l'autre, en fait.
Alors, cette compagnie dont vous nous parlez est la compagnie de la petite Ortie. Et donc, après une pratique artistique au cours de laquelle vous avez été amenée à jouer en tant que comédienne, vous êtes consacrée donc au travail de la mise en scène, comme vous venez de nous en parler, dans des textes comme « Oh les beaux jours » de Samuel Beckett, « Agatha » de Marguerite Duras, « Les amis » de Kobo Abe, pour n'en citer que quelques-uns. Et finalement, qu'est-ce qui vous a davantage séduit dans le travail de mise en scène? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans le travail de comédienne?
En fait, je suis une grande pressée. Et le fait d'être sur scène, ça me c'était à la fois un très grand plaisir, mais c'était aussi souvent quand même une souffrance. Avant de rentrer sur scène, j'étais mal, etc. Donc à un moment, je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose là. Pourquoi est-ce que ça te rend tourmenté de jouer, quoi.
Oui, qu'est-ce qui est mis à mal?
Comment?
Qu'est-ce qui est mis à mal à ce moment-là?
Oh, c'est le... Qu'est-ce qui est... Le corps est mis à mal, l'esprit, l'affect, les émotions. Je crois que c'était quelque chose de... J'aime être sur scène, hein, j'aime bien. Et en tant que comédienne, les retours que j'avais étaient des retours plutôt positifs. Mais finalement, je crois que le travail intellectuel de la mise en scène, c'est-à-dire toute la préparation, le travail en équipe avec le scénographe, avec le créateur lumière, avec les régisseurs, la direction d'acteurs aussi, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Puis alors, après, c'était les aléas de la compagnie, c'est-à-dire qu'on était une compagnie de femmes, on avait choisi, c'était l'époque, on va dire, du mouvement des femmes, on avait choisi d'être une compagnie de femmes, justement pour pouvoir s'essayer à la mise en scène, parce que dans toutes les compagnies qui existaient à l'époque, il n'y avait que des metteurs en scène, très peu de metteuses en scène, vraiment très peu. Et donc, Colette avait vraiment envie, elle, de s'essayer à travailler là aussi. Donc, les premières créations qu'on a eues, c'était des créations, dans ces années-là, on parlait de créations collectives. Donc à la fois sur la scène, plutôt dans une écriture de plateau collective, avec un travail à partir de textes, par exemple, de textes romanesques, et avec une adaptation qui était aussi une adaptation collective. Et c'est comme ça que la compagnie de la petite sortie a été créée. Puis ensuite, dans la compagnie, ça s'est fait assez naturellement. Colette, elle était comédienne, mais elle voulait être sur le plateau. Et petit à petit, du coup, moi, mon travail a été plus, elle a eu plus confiance en moi. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Et du coup, je suis passée plus à la mise en scène. Et puis alors, par rapport à la petite sortie, il y a aussi le fait que j'ai aussi décidé d'avoir un enfant. Et donc ça, quand on est comédienne, c'est pas toujours facile à organiser. Et donc le fait de travailler plutôt sur la mise en scène, ça m'a permis aussi d'avoir mon fils.
Bien. En vous écoutant, on voit que la transmission et le lien sont au cœur de votre parcours, puisque vous consacrez également beaucoup de votre temps à la formation d'enseignants ou d'enseignantes, à la pratique artistique en milieu scolaire. Alors, comment organisez-vous ces parcours, ces stages que vous proposez aux adultes? Y a-t-il une méthode, une sorte de trame que vous reprenez en la tissant au fil des objectifs fixés par les institutions? Plus concrètement, comment procédez-vous pour organiser un stage à destination d'enseignants et d'enseignantes alors que vous êtes vous-même enseignante?
Alors, justement, je crois que le fait que je sois aussi metteur en scène et que j'ai cette expérience artistique a fait que mon expérience a été reconnue. En fait, je suis devenue aussi formatrice parce que dans ces années-là aussi, ont été créées des associations de théâtre éducation, donc l'association Comet, dont vous parliez tout à l'heure dans votre introduction, donc une association qui défend le théâtre à l'école. Et j'ai été, avec Patrick Evin et d'autres, à l'initiative de la création de cette association, mais moi, à cette époque-là, j'étais comédienne et metteur en scène. Donc c'était bien une association qui regroupait à la fois des artistes et des profs. Et puis, c'était aussi l'époque où se sont développées toutes sortes de procédures, toutes sortes d'actions pour faire entrer le théâtre à l'école. On va dire la création des ateliers, la création ensuite des options théâtre, etc. Et donc, au fur et à mesure des années, on a fait appel à moi par mon expérience. Patrick, lui, était déjà à l'action culturelle du rectorat. Et donc, on m'a demandé d'animer des stages. Alors, au début, je les ai animés en tant que comédienne. J'ai animé des stages au CPR, par exemple, en tant que comédienne de La Petite Sortie. Puis, petit à petit, comme moi, j'ai ensuite intégré l'éducation nationale en tant que prof, après quelques années, du coup, on a fait appel à moi pour animer des stages, soit dans le cadre de l'action culturelle, soit dans le cadre du groupe LED. Petit à petit, si vous voulez, cette expérience-là a été utile pour organiser des stages, alors autour de l'oralisation des textes, autour de la pratique théâtrale. C'était aussi le moment où, dans le domaine de et de l'enseignement de la littérature, on s'est aussi rendu compte qu'enseigner théâtre, ce n'est pas comme enseigner le roman, la lecture du roman ou la lecture de nouvelles, c'était aussi passer sur la scène, penser au plateau, penser à ce qui nourrit les silences du texte de théâtre, les fameux trous du texte de théâtre, etc. Donc voilà, tout ça, moi j'ai été en plein, au milieu de toute cette ces questionnements, cette réorganisation de questions autour de enseigner le texte théâtral, enseigner l'oral, enseigner la lecture autrement, etc. Donc c'est comme ça que j'ai pu finalement utiliser mes deux expériences.
Oui.
Je veux dire, par exemple, lorsque j'ai commencé à animer des stages de théâtre au Grand P à la demande de Philippe Coutant pour le compte là de l'action culturelle du rectorat, Philippe m'a dit ben, moi ça m'intéresse que tu viennes parce que tu es aussi metteur en scène et donc tu vas apporter aussi quelque chose un peu moins verrouillé côté pédagogique institutionnel parce que tu as aussi cette expérience là. Voilà.
Oui, alors vous Vous parlez de ce travail que vous menez depuis 1987, donc en tant qu'animatrice de l'association départementale Comète. Je rappelle à nos auditeurs, Comète, communication, expression, théâtre à l'école, donc une association qui permet à de nombreux collèges et lycées, quoi, de nombreux jeunes de collèges et lycées du département de se retrouver autour de rencontres théâtrales, que ce soit à Guérande sur plusieurs jours ou, vous en parliez tout de suite, sur des temps plus brefs en partenariat avec le Théâtre du Grand T à Nantes. Et donc, ces nombreux jeunes ont la chance chaque année de participer à ces rencontres. Qu'est-ce que cela apporte chaque année et pourquoi faut-il coûte que coûte que ces temps d'échange perdurent, quoi qu'il advienne?
Oui, on peut le dire, là. C'est pas le quoi qu'il en coûte, hein, mais c'est le coût qu'il advienne. C'est encore plus net en ce moment, je crois. Moi, je suis persuadée depuis ma plus tendre enfance que le rapport à la création, le rapport à l'expression, il est essentiel à tout individu et donc à tout enfant ou à tout adolescent. C'est essentiel, pour la vie, pour se former, pour être un véritable individu, pour pouvoir vivre bien. Donc ça, moi, je crois que c'est essentiel. Ça l'a été pour moi, je le vois, je le sais pour tous les élèves que j'ai croisés dans les ateliers théâtre que j'ai menés, je le sais pour tous les profs que j'ai eus en formation et qui venaient me voir à la fin des stages pour me dire « mais c'est extraordinaire, mais enfin j'ai eu l'impression d'être, quoi, voilà, d'être d'un coup, là, en rapport avec des mots, sur scène, sous la lumière, j'ai eu l'impression tout d'un coup d'être, quoi, voilà. » Et donc, c'est essentiel. On le sent en ce moment dans cette pandémie. Nous, à Comète, là, on essaye de maintenir des rencontres pour le printemps 2021. On essaye de maintenir des contacts avec les profs, etc. Et les témoignages qu'on a, ce sont les moments essentiels pour les enfants, pour les élèves en ce moment. Les petits temps d'atelier, les temps où ils peuvent rencontrer des artistes, puisque pour l'instant, il n'y a que dans les établissements scolaires que les artistes peuvent aller se produire, non plus dans les salles de théâtre. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que c'était primordial. Alors je me suis battue pour ça, aussi bien dans l'institution de l'éducation nationale, aidée par ma hiérarchie, par aussi le vent qui emmenait vers ça. Enfin, pensons à toutes les années où il y a eu justement tout ce développement de tous les dispositifs qui ont pu exister à l'école. Et je me suis battue aussi pour ça au sein de la compagnie du Théâtre Pomme que j'ai fondée plus tard avec Brigitte Verrière, où on s'est donné pour objectif d'aller à la rencontre des enfants, des plus petits. Moi, ça m'intéressait d'aller vers les plus petits, c'est-à-dire les maternelles. Et donc d'aller vers eux en leur proposant des spectacles et je dois dire, toujours autour des textes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi, sont le rapport aux mots. Bon, je suis littéraire, alors donc voilà, les mots sont importants. Donc de proposer, même aux tout petits, des textes. Alors ça peut, les spectacles qu'on a montés pour les tout petits, ça peut être à partir d'albums. Je pense à textes que l'on a pu monter à partir de poèmes, par exemple de poèmes de Valérie Rousseau, qui est une poétesse contemporaine assez magnifique, qu'il faut découvrir aussi, ou des textes d'albums comme d'albums de Claude Ponty ou de Mélanie Ruten. Voilà. Et donc, ça m'a passionnée, en fait, hein, de voir comment on pouvait toucher des enfants tout petits, puis après des adolescents, enfin, de défendre aussi le texte dramatique, tous les âges.
Oui. Et donc, en 1993, quand vous êtes la cofondatrice, justement, du Théâtre Pomme, est-ce que le spectacle pour enfants, pour jeunes publics, est déjà très, très présent?
Non. Enfin, il était présent. On l'a appelé Théâtre Pomme parce qu'on faisait référence au Théâtre de la Pomme Verte.
D'accord.
Catherine Daffé, qui était donc une pionnière, on va dire, du théâtre jeune public. Et puis Pomme, c'était parce que c'était la fusion des deux compagnies, moi, la petite ortie, et Brigitte, elle avait une compagnie qui s'appelait La Marcotte. Donc P-O-M sont les lettres initiales des noms de ces deux compagnies. Mais le théâtre jeune public, ça commençait. Il y avait du théâtre jeune public, mais souvent un théâtre jeune public était un petit peu au rabais. Quoi. Enfin, je sais comment dire, on s'adressait aux enfants comme s'ils avaient été des êtres humains moindres. Quoi. Alors que les partisans communautés du théâtre qui s'adressaient aux jeunes, ça commençait à y avoir aussi un mouvement pour dire on va s'adresser aux enfants parce que ce sont des êtres bon, ils sont en devenir certes, mais sont des... Et ils peuvent comprendre, on peut leur parler de tout. Enfin, vous voyez, il y a aussi le fait qu'on est tombé aussi à un moment où le regard sur l'enfant, sur la jeunesse, sur l'enfant, sur l'adolescent, changeait. Donc moi, ça m'a passionnée de créer aussi dans cette mouvance-là. Et puis aussi parce que c'était le moment où l'écriture pour le jeune public aussi se développait. Alors, l'écriture, par exemple, la littérature pour les jeunes, toutes les collections qui sont nées à ce moment-là de romans destinés au jeune public, et avec des auteurs qui vraiment s'y consacraient, et pas en le faisant simplement de manière mercantile, hein, vraiment parce que ça leur plaisait, parce qu'ils avaient envie de s'adresser aux adolescents ou aux enfants.
Et d'adapter aussi un langage justement pour le jeune public.
Oui, c'est ça, puis aussi de dire qu'on peut parler de la mort, on peut parler de la guerre, on peut parler de souffrance aux enfants. Ils sont capables d'entendre ça, on n'est pas obligé de leur raconter que des histoires de princesses. Et donc, toujours à la limite entre les deux, le pédagogique, avec mon boulot de prof d'un côté, dans lequel j'infusais plein de théâtre, enfin, moi je faisais du théâtre partout, hein. Et puis mon boulot de metteur en scène, par exemple, on avait monté, ça nous intéressait bien de monter, par exemple, des ateliers de théâtre autour de la lecture et le théâtre pour aider les enfants à lire davantage et à lire mieux, par exemple. Donc ça, c'était des expériences que j'ai menées, moi, au sein de mon établissement, à partir de ce que j'ai pu bricoler, construire, bah, finalement... L'inspectrice, ça l'a intéressée, ça se faisait aussi dans d'autres endroits, et donc petit à petit, bah, j'ai été amenée à faire des stages, à organiser des stages autour de ça, en disant, ben voilà, le théâtre, ça aide les enfants aussi à lire, ça leur donne le goût de lire, mais ça les aide à lire. On avait créé un spectacle lecture à l'aventure, qui était à partir d'un spectacle de jeu, on allait pour aller dans les classes. À partir de ce spectacle de jeu, on faisait découvrir la littérature jeunesse aux enfants, mais aussi aux profs, mais aussi aux profs d'école qui, pour beaucoup, ne connaissaient pas ou méprisaient cette littérature. Puis après, les textes dramatiques pour les collections de textes pour le théâtre, pour le jeune public, se sont développés et là on s'est rendu compte que ces textes-là, qui étaient aussi écrits par des auteurs qui s'engageaient, qui avaient envie de s'adresser aux enfants, eh bien ils étaient aussi intéressants pour les adultes, quoi. Hein, franchement, il y a beaucoup de textes dans les collections jeunes publics qui sont aussi riches, qui offrent des possibilités de lecture différentes et qui sont aussi riches pour les adultes. Hein.
Oui. Et justement, grâce à vous, j'ai découvert une petite partie de l'univers de Karine Serre que je ne connaissais pas et qui a beaucoup écrit pour le jeune public. Alors, pouvez-vous nous parler de cette autrice et de votre rencontre ?
Alors, ma rencontre avec Karine, c'est justement une auteure qui s'est engagée dans tout ce mouvement, qui a défendu le théâtre jeune public, parce que je crois qu'elle aime aussi être avec des enfants. Elle a beaucoup animé d'ateliers en milieu scolaire. Elle a aussi répondu à des commandes, par exemple, faites pour d'écriture pour des groupes d'enfants. Hein. Et elle dit tout le temps, je le fais parce que ça me semble essentiel de s'adresser à eux, de leur permettre aussi de rencontrer le théâtre. Moi, je l'ai rencontrée parce que donc elle est j'avais lu donc le texte Marguerite de Reine des Prés, qui est un texte qui est à ses premiers textes publiés voilà, dans la collection L'École des loisirs. Et franchement, quand je l'ai relu là pour l'occasion, parce que moi je l'ai travaillé en lecture spectacle, qu'on a beaucoup tourné, en particulier justement avec le grand T dans les établissements scolaires. Et là, quand je le relisais, je me disais, mais c'est un texte qui est vraiment aussi pour les adultes, quoi, qui donne à penser beaucoup aussi aux adultes. Et donc voilà, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce texte-là. Je l'ai monté, j'ai commencé à découvrir toute son œuvre et d'autres textes à elle que j'ai aussi beaucoup aimé, qu'on a mis en scène aussi au sein de la compagnie dans le cadre de lecture. Je l'ai rencontré. On a sympathisé, je lui ai demandé aussi d'intervenir dans des stages que je menais pour l'éducation nationale, donc des stages autour de l'écriture dramatique. Ça a toujours été un bonheur de travailler avec elle et avec des groupes de profs. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime, dont j'aime vraiment le parcours. Je trouve qu'elle a su vraiment créer une œuvre. Parce que dans les auteurs qui écrivent pour le jeune public, il y a vraiment des auteurs qui depuis le temps ont vraiment créé une œuvre. Elle, je trouve qu'elle a créé une œuvre quand on lit tous ses textes et qu'on lit aussi ses romans, parce qu'elle écrit aussi des romans, les textes pour les tout petits, elle écrit des albums. Elle a écrit des albums que moi je lis pour mes petits-enfants, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, je trouve qu'on voit vraiment que c'est une auteure qui a créé son monde, qui a créé son langage. Il y a des thématiques qui se croisent. Et bon, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Alors, c'est pour ça que quand vous m'avez demandé un nom, bah, j'ai pensé à elle. Et puis, en plus, parce que je trouve que c'est important de montrer que les auteurs voilà, sont présentes aussi dans le monde théâtral.
Bien, un très grand merci et nous allons vous écouter. Vous nous avez fait le plaisir de lire quelques extraits de cette pièce Marguerite, Reine des Prés. Nous vous écoutons.
Marguerite, Reine des Prés. Scène 6. Le fils. Ludovic. Dit Ludo. Troisième nuit, identique aux autres. Il parle à sa sœur Marguerite, qui est dans sa chambre, la porte est fermée. Margue, Margue, hé, tu m'entends? Son nom, tu sais, je le connais maintenant. Je suis allée le lire sur leur boîte aux lettres. Il y avait tellement de lettres dedans. « Non, mais qui c'est qui leur écrit? C'est dingue !» En glissant mes doigts dans la fente, je les ai sortis une par une. Je ne sais pas pourquoi, c'était si tôt le matin. T'inquiète pas, personne ne me voyait, tout le monde dormait. Le courrier de la veille, tout un tas d'enveloppes tout humides. Mais pourquoi ils avaient oublié de venir le chercher? Alors quand j'ai tiré une des enveloppes, le coin du bas s'est déchiré et il y avait une lettre dedans, tu sais, une grande feuille de papier pliée. Je l'ai tirée, moi, pour voir, tout doucement, juste pour lire le bas, la fin. Une signature grande, comme sur un traité de paix, je te jure, et juste au-dessus, il y avait marqué « Embrassez Marie-Ange pour moi ». T'entends ça ? Marie-Ange, elle s'appelle, la petite de Siroute, Marie-Ange Panicucci. Elle a des bras, ses bras fins et plats, presque carrés le dessus, tu vois? Le contraire de toi, pile le contraire, et plein de poils noirs dessus. Coche, qu'est-ce que je donnerais pour les toucher? Plus loin, dans la pièce, on retrouve Ludovic. Aïe, je lui ai parlé, à la petite de Siroute, ce matin tôt, à l'orme seule. Elle y est retournée, je le savais bien qu'elle reviendrait. Je l'ai vue arriver, je me suis plantée devant elle et je lui ai dit « T'aimes Blueberry ?» Je n'allais pas demander « T'aimes le camembert ?» ou « T'aimes... » Alors, moi, « T'aimes Blueberry ?» j'ai dit. Elle m'a regardé avec ses grands yeux noirs profonds comme des puits, tout ronds, tout brillants d'étonnement. « Ben, c'est moi !» je lui ai fait. « C'est moi, Blueberry. Ou presque, les Blueberry, je les ai tous lus. C'est mon père qui les a chez Antar à chaque plein de l'estafette. Alors, vu ce qu'elle consomme et le réservoir, je l'ai même un peu percé aussi pour aider. J'ai toute la collecte. Tu veux que je te la prête ?» j'ai demandé. Et elle s'est ensauvée. « Blood and guts !» Plus loin encore dans la pièce, Ludovic, toujours devant la porte de la chambre de sa sœur, Marguerite, tricote en pyjama, tricote en jersey. Ludovic. Du point mousse ? Et puis quoi encore ? C'est un truc de naze, ça, de bleusaille, de fiente, de cancrela. Et puis tu verrais comment ça plombe, déformé de la mort, le cache-nez. On aurait dit à un couvre-pied, une serpillière débouillie, tu vois, à deux doigts de lui tendre, de lui offrir, là, à deux pas devant moi, elle était avec ses yeux, et moi, les doigts sur le paquet. Tout à coup, heureusement, flash, j'ai réalisé la connerie, mais la connerie grave que j'allais faire, et j'ai rien dit. Rien déballé, rien offert qu'un sourire, niais. Faut que je cartonne, là, demain matin, que j'ai fini, que je récupère le coup. Elle va pas m'attendre des années plantée avec mon silence et mon paquet cadeau, papier journal jamais donné. T'entends ? Marguerite. Tout, j'entends. T'en fais pas. Tout écouter, moi. Plus que ça, Ludo, maintenant, dans mon état. Tous les bruits de la maison et le vent dehors, des fois... qui tourne et qui l'a fait craquer, peut-être, s'effondrer un jour, j'imagine, j'attends, j'espère. Tes aiguilles qui cliquettent, tes mots qui roulent, tes gauches comme un coup de pied dans un caillou, la laine qui frotte brin contre brin avec le même bruissement de soie que mes cuisses, petites quand ça a commencé. Mes cuisses fraîches pourtant, mes cuisses grassouillettes, mes grasses cuisses qui frottent. C'est le matin qui arrive ? Ludovic. On dirait. Marguerite. Oh non, Ludo, fais quelque chose. J'ai peur. Me laisse pas tomber. Pas la journée. Marguerite Reine des Prés. Dans la scène 7, Muguette, la maman, vient rendre visite à Marguerite, sa fille, enfermée dans sa chambre. Elle entre dans la chambre obscure. « Bien dormi, ma chérie ? T'as faim, hein ? Faim, oui. » Regarde un peu tout ce que je t'apporte de bon. Tiens, voilà. Tiens, oups. Attention, mon lapin. Si t'en reveux, t'as qu'à m'appeler, hein? Et puis, on va encore se peser ce matin. Tu veux bien? Tu fais plaisir à voir, toi. Mange, mon cœur. Mange bien. Mange tout. J'ai confiance en toi. Tu sais, je suis sûre. Mange bien. C'est toi qui vas gagner. Cette année, le trophée, c'est nous, les Bourgoles, qui allons le remporter. On comprend au fil de la pièce que Marguerite... qui, dit-elle, a un prénom de vache, est engraissée par sa maman pour gagner un trophée au concours agricole. Plus tard, beaucoup plus loin dans la pièce, À la scène 15, Muguette, la maman, parle sa pensée. La vérité, je meurs vivante, moi, à force de tout donner pour ma fille, pour elle. J'ai plus un gramme d'énergie là-dedans, à l'intérieur. Je me vide comme une vieille piscine trois boudins trop cuite à la fin de l'été. Dans l'herbe écrasée, foulée sans un bruit. Tout tombe de moi, tout, mes cheveux, mes ongles, mes cils, mes dents. Béante, trouée, éventrée, tout me quitte. Terre brûlée, je pèle, je me fane, je tombe en poussière, en miettes dans leurs assiettes. Et eux, les aveugles, ils me mangent à grande lampée sans rien remarquer. Si ça continue, je vais finir par devenir complètement transparente. Oui. Et un jour, tout à coup, sans prévenir, j'existerai plus. Fondue goutte après goutte, toute dissoute entre vos pieds noirs dans la terre battue. Et là, 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 je vous promets que vous rigolerez plus, que vous me chercherez, que vous me trouverez plus. Dans la scène 18, plus loin dans la pièce, c'est Marguerite, la fille, qui parle. Grosse ! Tu criais et tu repartais en hurlant de rire et moi en larmes derrière la porte de ma chambre claquée. 10. Et 100 fois par jour tu l'ouvrais cette porte tout à coup. Moi, en pleine dinette de poupée, moi, sursautée en plein Lego qui volait juste pour lâcher ce mot « grosse ». Toi, hilar, et moi, le monde s'écroulait comme ma maison de Lego et tu repartais, toi, avec tes joues plaques rouges vifs et ton rire ravageur. Des fois même, rappelle-toi, tu en pleurais de rire, Ludo. C'est une des dernières scènes de la pièce, la scène 22, entre Ludovic et Marguerite. Ludovic est l'œil collé à la serrure. Il regarde dans la chambre. Margue, Margue, tu dors ? Margue, gauche, mais qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais damned! Tu pleures? Où t'es? Bloody hell! Mais qu'est-ce qui fait noir dans ta piole? T'as pas une lampe? Rien? Clic. Une lampe s'allume derrière la porte. Non, je... Enfin, si je te vois, Marg... Enfin... C'est toi? Gauche, mais qu'est-ce que t'es ? Marguerite. Oui, hein ? Ludovic. Énorme ! Énorme ! Marguerite. Un monstre ? C'est ça, vas-y, dis-le. Non, non, pas du tout. Au contraire, on dirait... Tais-toi, me regarde pas. Si, si, on dirait... Arrête, Ludo, ou j'éteins. Une méduse, Margue. Tu ressembles à une méduse. Une immense méduse toute pâle, toute blanche, qui flotterait tout au fond de la mer, tu sais, là où c'est tout noir. Comment ça s'appelle ? Les abysses ? Oui, oui, une immense méduse molle et douce et claire comme une lune de lait qui battrait tout doucement. Qui bat comme un cœur, qui gonfle et qui dégonfle comme une lune pleine d'eau, comme un flanc, comme... Ça va ? Hé, Margue, réponds-moi, comment tu... Tu pleures, hein ? Tu pleures, c'est ça ? Margue, arrête ! Ludo essaie d'ouvrir la porte. Mais il pue, toi, mais c'est fermé, non, je rêve, il t'enferme. Il t'enferme pour la nuit, ils sont tarés. C'est pour pas qu'on me vole. Qu'on te vole ? Qui ? Les autres. Ceux qui ont des vaches. Les vaches que je vais battre demain, moi, le monstre, le... Chut ! Recommence pas, ça sert à rien. Dis-moi plutôt, ta fenêtre, il y a des volets ? Marguerite, oui. Ludovic, fermé ? Marguerite, coffré, juste. Ludovic, je fais le tour, bouge pas. Mais Ludo, chut, tais-toi, j'arrive. Oh oui, Ludo. Ludovic, c'est fini. Marguerite, tu vas me sauver ?
Il me reste à vous remercier, Catherine Lemoulec, en mon nom et en celui des auditrices et auditeurs, pour le temps que vous nous avez consacré. Et s'il ne fallait garder qu'un mot, qu'une expression pour les temps à venir, où le spectacle vivant nous manque plus que jamais, quel serait-il pour vous ?
Alors, j'avais pris plein de notes pour parler de Karine. Je pense que je n'ai pas parlé assez, mais il me semble important dans son œuvre, dans son écriture, c'est la liberté. C'est qu'elle a une grande liberté à la fois dans sa langue et aussi dans son imaginaire. Elle dit d'ailleurs, je laisse les personnages qui sont dans ma tête apparaître, se croiser. Voilà, elle a une très grande liberté qui donne à son œuvre un caractère voilà, foisonnant, avec des situations toujours nouvelles et une grande liberté dans la langue. Et pour moi, le théâtre, c'est aussi ça. Donner une grande liberté d'être sur un plateau, une grande liberté d'imagination aussi. Et je trouve qu'en ce moment, c'est un mot qui résonne. Donc voilà, théâtre et liberté, je trouve que c'est pas mal pour finir.
Très bien. Merci Catherine.
Merci à vous Anna.
C'est l'heure du clin d'œil de la comtesse Rostropovitch sur Prune 92 FM.
Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices de Radio Prune. Vous me reconnaissez ? Je suis Eugène, le nouvel animal de compagnie de la comtesse Rostropovitch. Vous trouvez sans doute que ma voix n'est pas très claire aujourd'hui, et pour cause. Alors, d'accord, je n'ai pas eu le même sort que cette pauvre caissière de chambre froide de Karine Serre, mais figurez-vous que la comtesse m'a oublié sur son balcon toute la nuit dernière, et avec les très basses températures que nous connaissons ces derniers jours, j'ai bien failli crever, moi aussi. Quoi qu'il en soit, je suis encore en vie. Pour votre plus grand bonheur, je m'en doute. Quant à la comtesse, ma vengeance sera terrible, et je lui prépare une petite surprise pour la Saint-Valentin. Comptez sur moi, je ne ferai pas dans la dentelle.
Eugène ! Eugène ! Où êtes-vous ? Je vous ai préparé un petit grog pour adoucir votre mal de gorge. Croyez bien que je suis vraiment désolée pour ce qui vient de se passer cette nuit. Et j'entends me faire pardonner.
Vous voyez bien, Eugène, la comtesse ne vous veut que du bien.
Ouais, c'est ce qu'on dit. Bien. Que cette Saint-Valentin spéciale Covid-19 et restaurant fermé se passe cependant dans la joie et la bonne humeur, et peut-être même sous la couette. On fait le point dans un mois. Bon, je vous laisse en compagnie d'Anna pour l'actualité nantaise.
L'actualité de la scène théâtrale nantaise dans Tous en scène, c'est l'agenda d'Anna.
Ce mois-ci, les salles de spectacle n'ont toujours pas le droit de nous accueillir. Pourtant, nous espérons que cette situation ne va pas durer. Le spectacle, Bagarre, texte commande de Karine Serre, a été créé en 2020 par Annabelle Sergent de la compagnie Loba, compagnie angevine, fondée en 2001. À ce jour, les représentations ont été reportées plusieurs fois. Cependant, Mars et les beaux jours revenant, et avec eux la perspective de voir ce virus contagieux s'estomper pour enfin disparaître, je vous indique les dates à venir pour la représentation de Bagarre. Du samedi 20 au mercredi 24 mars au Quai à Angers, et les mercredis 14 et jeudi 15 avril dans le cadre du festival Petits et Grands à Nantes. Je vous recommande par ailleurs le très beau site de la compagnie Loba, cielobaorg. Et pour se faire plaisir, voici une lecture d'un petit passage de ce texte, Bagarre, lu par Catherine Lemoulec, notre invitée de ce mois de février.
Stop ! C'est pas juste, il est tout petit ! Tout seul ! Non, mais il a des lunettes ! Bagarre-toi pour défendre ce qui compte pour toi, elle dit Tata. Je revois la première fois où je... Paf, paf, King Ball avec les gants de Titus. 2. Les gants chaussettes rouges qui puent que je me fabrique pour le... Paf, 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 de nouveau. 3. Les yeux brillants de Tata Moisy qui propose de m'entraîner. Mes milliers de sauts à la corde, d'abdos, de tours du toit. 4. Tous nos comptages, matin et soir, Titus, Tata et moi. Comment on fait ça bien, nous trois? 5. Le cheval sauvage à l'intérieur de moi. Bam bam, bam bam, qui recommence à palpiter. Je réveille chaque joie. Chaque fois qu'on m'a écoutée, chaque fois que je me suis sentie forte, grande, vivante. Et je me retrouve à cheval, sur la plage. C'est l'aube, la mer déroule ses vagues couvertes d'écume dans la lumière dorée. Face à moi, sur le sable, les terreurs de la récré, prêts à me massacrer. Le vent caresse mon kimono. Mes bras nus, mes joues fraîches, l'air salé me remplit d'énergie. Les mouettes crient pour m'encourager. D'une pression des genoux, je lance mon cheval. Ses sabots s'enfoncent dans le sable mouillé. On est si plein de joie, lui et moi, si heureux de ce qu'on a décidé que rien ni personne ne peut nous arrêter. Bam bam, bam bam, on galope droit vers les terreurs de la récré. Bam bam, bam bam, les sabots de mon cheval lancent des étincelles. D'autres galops nous rejoignent dans le vent, ceux des chevaux de la mer. Bam bam, bam bam, la mer monte à toute allure sur le sable. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Les terreurs reculent. Galopons, galopez, que le tambour de nos cœurs et de nos sabots stoppe les massacres dans cette cour de récré. Même taille, même poids, même nombre, ok ? La bagarre, d'accord, pas la guerre, pas se faire mal pour de vrai. Emportée par notre cavalcade, la mer monte dans une vague si énorme que les terreurs s'enfuient, paniquées. Quand la vague redescend, plus personne sur la plage, sauf le petit aux lunettes de traviole qui me sourit. Mon cheval, c'est un Pégase. Il s'envole dans le ciel. Le petit bigleux ramasse des coquillages. Moi, j'entre dans la mer transparente et douce. Pour nager. Championne du monde.
Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Tous en scène, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Catherine Lemoulec pour ce temps passé avec nous et pour son interprétation des différents personnages de l'univers de Karine Serre dans des extraits de Marguerite, Reine des Prés et de Bagarre. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre, à la réalisation sans qui cette émission n'existerait pas, et également à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site www.prune.net. On se retrouve samedi 13 mars de 12h à 13h pour une nouvelle émission de Tous en scène, qui sera cette fois-ci consacrée à Eugène Ionesco. J'en connais un qui va être content. À suivre sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire, la playlist. Bonne journée à tous et à toutes.